L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, en République démocratique du Congo, l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba est exclu de la course à la présidentielle de décembre prochain. En Suisse, on verra comment le canton de Genève est en pleine crise politique. En Belgique, les larmes de la présentatrice météo de la RTBF harcelée de messages racistes. Au programme encore, de la prison avec sursis requise contre les deux rappeurs les plus célèbres en France. Et au Canada, le réalisateur Michael Moore, présent au Festival international du film de Toronto. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Belgique, Anne Goderno, voici deux femmes, deux journalistes, poursuivies en justice pour association criminelle et trafic d'êtres humains.
Oui, elles s'appellent Anouk Van Gestel et Myriam Berg. La première est rédactrice en chef de Marie-Claire Belgique et la deuxième est journaliste chez Femmes d'aujourd'hui. Ces deux femmes sont donc poursuivies pour avoir ouvert leurs portes à des migrants. Elles sont soupçonnées d'avoir voulu faire passer illégalement les frontières à certaines des personnes qu'elles hébergeaient et elles sont inculpées pour trafic d'êtres humains. Leur procès s'est ouvert hier, histoire d'établir un calendrier d'audience. Mais avant cela, les deux femmes, qui sont des amies, ont écrit une lettre au Premier ministre. Elle parle d'un procès politique pour aller chercher les voix de l'extrême droite et destiné à briser tout élan de solidarité. Elle risque gros, jusqu'à 10 ans de prison.
L'homme de la semaine en France, c'est le nouveau ministre de l'écologie, François de Rugy. Une semaine après la démission fracassante de Nicolas Hulot, François de Rugy était jusqu'ici le président de l'Assemblée nationale. C'est un écologiste, un homme présenté comme ambitieux. Il avait tenté de devenir le candidat socialiste à la dernière présidentielle, mais ce fut un échec et donc il a préféré rejoindre le camp d'Emmanuel Macron. Alors autant Nicolas Hulot pouvait représenter un caillou dans la chaussure d'Emmanuel Macron, autant François de Rugy apparaît comme un homme beaucoup plus conciliant qui n'ira pas contre la volonté de l'exécutif. En Suisse, Pierre Anchoffa, gros plan cette semaine sur Pierre-Yves Maillard.
Figure marquante du socialisme en Suisse, il dirige les affaires sociales depuis 14 ans dans le canton de Vaud. Est-ce un début de lassitude qui s'exprime? Il est en tout cas tout feu, tout flamme pour reprendre la présidence de l'Union syndicale suisse à la fin de l'année. Il faut dire que le dossier sensible de la protection des travailleurs face aux effets de la libre circulation des personnes est au cœur du débat national. Il y aura donc de quoi batailler pour le patron de la fêtière syndicale. Un job clairement à la mesure de Pierre-Yves Maillard. Seul handicap, cela devait être le tour des femmes et il y aura des candidates. La campagne s'annonce passionnante.
Benoît Audet au Canada. La semaine canadienne a été marquée par la mort d'une personnalité bien connue. Hein.
Oui, Lise Payette, qui s'est éteinte à l'âge de 87 ans. Elle a été tour à tour animatrice à la télévision, ministre au sein du premier gouvernement souverainiste au Québec et auteure de téléromans. Elle a été de tous les combats en faveur des femmes. On a salué cette semaine une véritable pionnière. Comme ministre, une de ses principales réalisations aura été l'instauration d'un régime public d'assurance automobile.
En Afrique, Aurélien Devernois, vous nous présentez maintenant le nouveau roi du coupé décalé.
Serge Beno, c'est son nom, est reparti victorieux du dernier Prix Mud, le prix international des musiques urbaines à Abidjan, en Côte d'Ivoire, meilleur artiste masculin et Prix Mud d'or pour cet Ivoirien de 30 ans. Cela fait maintenant une décennie que Serge Beno est actif sur la scène musicale ouest-africaine. Chanteur et producteur, il navigue entre l'afropop et donc le coupé décalé, un style qu'il contribue à exporter hors des frontières de Côte d'Ivoire.
L'actualité africaine, encore avec RFI, c'est donc en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba est exclu de la course à la présidentielle de décembre, Aurélien Devernois.
Oui, la Cour constitutionnelle a invalidé lundi la candidature de l'ancien vice-président congolais, acquitté en juin par la Cour pénale internationale des charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il est toujours poursuivi par la CPI dans une affaire parallèle de subornation de témoins. Ce sont ces charges que la Cour constitutionnelle congolaise a retenues pour exclure Jean-Pierre Bemba. Mais il ne perd pas espoir.
Bien sûr, il y a toujours moyen de mener d'autres actions en justice et ce sera fait d'ailleurs. Vous pouvez toujours aller au niveau de l'Union africaine, les chambres qui tranchent ces questions également. Puis bien sûr, la procédure au niveau de la CPI n'est pas terminée.
La prochaine étape, ce sera le 17 septembre. La CPI doit rendre sa décision dans ce dossier de subornation de témoins, deux jours avant la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle en RDC. Jean-Pierre Bemba, lui, multiplie les critiques vis-à-vis des élections du 23 décembre prochain. Il accuse le pouvoir de choisir les candidats.
Je pense que, à l'heure où nous parlons, ces élections risquent vraiment d'être contestées au lendemain du vote, puisque Les élections, c'est fait pour que la population puisse choisir ses dirigeants. Mais lorsque vous avez un pouvoir qui décide de qui sera voté au préalable, ça pose un sérieux problème de crédibilité des élections.
Des accusations balayées par Kinshasa qui demande à tous les acteurs politiques congolais de respecter les institutions du pays.
En Suisse, le canton de Genève traverse une crise politique sans précédent. Le ministère public veut ouvrir une enquête pénale contre le président du gouvernement cantonal, à qui on reproche d'avoir accepté des avantages, Pierre Anchoffat.
En cause, le voyage de Pierre Maudet à Abu Dhabi en 2015. Selon l'enquête préliminaire, ce déplacement avec sa famille a été financé par le prince héritier de l'émirat pour plusieurs dizaines de milliers de francs suisses. La ligne de défense du ministre radical évoquait un voyage purement privé, financé par un ami, une version qui n'a pas résisté longtemps face aux soupçons de la justice. Pierre Maudet, dans une confession publique sur une chaîne de télévision locale, s'est excusé pour la faute commise.
J'ai besoin de dire ce soir aux Genevoises et aux Genevois que j'ai caché une partie de la vérité, que ça n'est pas admissible, que je regrette profondément que ça nous met dans une situation délicate. Je souhaite aussi pouvoir témoigner ici que ce qui m'anime véritablement dans ce gouvernement, cette capacité de gouverner, cette aptitude, elle est intacte.
Vous aurez apprécié l'art de la litote pour ne pas utiliser le terme de mensonge. J'ai caché une partie de la vérité.
Et l'art de la rhétorique. Pierre Maudet dit aussi que son goût de gouverner est intact. Quelles sont les conséquences politiques possibles?
Eh bien, le gouvernement genevois en a déjà longuement débattu. Au final, Pierre Maudet conserve ses fonctions à l'exception de la supervision du ministère public et des services qui enquêtent sur lui. Il ne représentera plus non plus le Conseil d'État vis-à-vis de l'extérieur, mais pour l'essentiel, il reste bien accroché à son fauteuil. Tout dépendra donc désormais des conclusions de la justice. Le Parlement doit encore lever son immunité pour que Pierre Maudet puisse être entendu comme prévenu. Une simple formalité au vu du dossier.
Elle est trop noire pour passer à la télévision. Ça se passe en Belgique, Anne Goderno. Le coup de gueule d'une Miss Météo de la RTBF. Elle s'appelle Cécile Djunga.
Cécile Djunga est comédienne, humoriste et présentatrice de la météo à la RTBF depuis un an. Elle est pétillante, on dit d'elle que c'est un véritable rayon de soleil. Et pourtant, mercredi soir, elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Une vidéo où elle est en colère.
Hier, au boulot, donc à la météo, il y a une dame qui a appelé pour dire que j'étais trop noire et qu'elle ne voyait rien dans l'écran, qu'on ne voyait que mes vêtements, que je ne passais pas bien à la télé parce que j'étais trop noire et qu'il fallait me le dire.
Cécile Djunga, entre rire et larmes, très vite vous allez l'entendre, la jeune femme exprime toute son émotion.
Ça va faire un an que je fais ce métier maintenant et j'en ai marre en fait de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants. Donc ça commence à me mettre en colère vraiment et puis ça me touche. Je me sens belge, je suis bien dans mon pays. Donc maintenant on va arrêter de me dire de rentrer dans mon pays parce que je suis dans mon pays, d'accord? Donc maintenant on arrête les messages racistes.
Sa vidéo a été vue plus de 2 millions de fois. Les messages de soutien se sont multipliés. La RTBF a réagi, elle aussi, en rappelant que le racisme est un crime punissable en Belgique et que des poursuites seront engagées. Le directeur du Centre pour l'égalité des chances l'a aussi remercié d'utiliser sa notoriété pour dénoncer ces faits.
Oui, et pénalement en Belgique, Anne, il y a donc des possibilités de poursuivre les auteurs de ces actes.
La Belgique dispose en effet d'une loi spécifique, la loi Moureau, qui peut être activée en cas d'incitation à la haine. Patrick Charlier, le directeur d'UNIA, le Centre pour l'égalité des chances.
Si les messages sont rendus publics, si c'est des posts qui sont faits sur son compte Facebook, sur son compte Twitter ou avec un certain degré de publicité, cela pourrait être interprété comme une forme d'incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination. Et donc ça, c'est une infraction qui est reprise dans la loi contre le racisme, la loi Moureau.
Et toujours chez UNIA, ces chiffres, en 2017, plus de 780 dossiers de racisme ont été ouverts, des chiffres en hausse depuis 2013. Soulignons encore que Charles Michel, le Premier ministre, a déclaré vouloir lutter contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Pour lui, je cite, « la peur doit changer de camp ».
Ce sont deux rappeurs parmi les plus célèbres en France, Booba et Caris. Ils ont comparu cette semaine devant la justice française pour une bagarre généralisée entre bandes. Les faits remontent au 1er août, dans un hall d'embarquement de l'aéroport d'Orly. Un magasin duty-free avait été saccagé, des personnes choquées et plusieurs vols retardés. Le tribunal en France vient donc de prononcer des peines jusqu'à un an de prison avec sursis. Ça fait plusieurs années que les deux rappeurs se provoquent sur les réseaux sociaux, mais pour cette bagarre généralisée, les vidéos décortiquées à la barre n'ont pas permis d'établir qui avait commencé à provoquer l'autre. Un tribunal qui ressemblait donc cette semaine à une cour de récréation sur le thème « ce n'est pas moi, c'est l'autre qui a commencé ». Et finalement, pour le procureur, les deux rappeurs sont victimes de leur ego. Victime aussi du personnage qu'ils ont créé. Louis Jésus est sociologue du rap et il a assisté aux 12 heures d'audience.
Les prévenus ont envie de rester dans ce rôle de chef de bande, d'homme un peu dur, quoi. En revanche, les réquisitions du procureur, pour moi, elles font aussi ce jeu-là, puisque finalement, ce que dit le procureur ce soir, c'est qu'il faut apaiser les tensions entre deux bandes rivales. En fait, il ne propose pas de juger les faits, il propose d'apaiser les tensions entre des bandes rivales. Donc quelque part, les propos du procureur alimentent encore cette image de deux rappeurs qui sont des chefs de bande. Je crois que ça convient assez bien à Caris Abouba finalement.
Voilà, un an de prison requis avec sursis. Le jugement est mis en délibéré au 9 octobre prochain. Au Canada, l'ouverture du Festival international du film de Toronto. Cet événement est devenu, au fil des années, l'un des plus importants du genre au monde. Et cette année, il n'y a pas fait exception, Benoît Audet, avec la présentation d'un film très attendu.
Oui, c'est le dernier né du documentariste et polémiste américain Michael Moore. Il présente à Toronto son film Fahrenheit 11-9, qui promet d'être une charge à fond de train contre le président Donald Trump. Il faut rappeler qu'un autre de ses films, Fahrenheit 911, est le documentaire qui a connu le plus grand succès au box-office de tous les temps. Un autre film événement est celui du rappeur canadien Drake, Monsters and Men. C'est un film qui porte sur la violence policière. Enfin, mentionnons le film The Death and Life of John F. Donovan. C'est le premier film en anglais du réalisateur québécois Xavier Dolan.
Oui, et au-delà des projections en salle, le Festival de Toronto se déroule dans un climat particulier, près d'un an après le début du mouvement MeToo.
Oui, la direction du festival a voulu prendre les devants en lançant une ligne téléphonique et un formulaire en ligne pour permettre de dénoncer des comportements déplacés. C'est la première édition du festival donc qui se tient depuis le début de la vague de dénonciation. La direction de l'événement encourage tous les gens qui y participent à prendre connaissance de son nouveau code de conduite. De nombreuses actrices font partie du mouvement MeToo et les responsables du festival veulent clairement démontrer que ces femmes ont été entendues depuis un an.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.